avec David Abiker.
La revue de presse ce matin, donc l'équipe de France s'est trouvé un capitaine et la France cherche un cap.
Le capitaine est à la une de l'équipe, c'est Mbappé à la tête de l'équipe de France de football. La France, elle, effectivement, se cherche un cap. Et maintenant, que peut faire Emmanuel Macron, s'interroge le Figaro. Les défis de l'après, titre les Échos. Le gouvernement dans l'impasse, c'est la une de la Dépêche quand le monde promet une semaine de tension. Le New York Times parle d'une phase de forte certitude. La tribune de Genève se demande si Borne pourra continuer à gouverner. Pour les éditorialistes chez nous, il faut tout changer. En une du Figaro, Vincent Trémollet de Villers parle de crack politique. Dans l'Opinion, Nicolas Bétou préconise un programme de gouvernement avec la droite. Toujours dans l'Opinion, le député Renaissance et président de la Commission des Affaires étrangères, Jean-Louis Bourlange, préconise un rassemblement des forces humanistes pour un pacte de gouvernement, avec ou sans dissolution. Gilles Legendre, également député Renaissance, estime, lui, dans Libération, que le président doit prendre une initiative politique forte et admet que la réforme des retraites est une réforme financière banale et pas du tout transformatrice. Enfin, dans les Échos, Cécile Cornidet écrit ceci. Le seul à relativiser la situation, c'est Macron. Certains de ses proches parlent même d'un accident parlementaire. Certes, le président va reprendre la parole, non pas pour tout changer, mais pour continuer. Méthode couée, déni, obstination ou coup de bluff, pour Macron, ceci n'est pas une crise.
Et puis une photo à la une des journaux ce matin, deux hommes dont on vient de parler, tout sourire.
Xi Jinping et Poutine affichent leur connivence face aux Occidentaux, c'est la une du Figaro, où il faut lire la tribune de Thierry Volton, qui estime que la Chine veut installer un nouvel ordre mondial chinois. Dans les Échos, Poutine et Xi célèbrent une amitié tout en ambiguïté. C'était hier la première visite du dirigeant chinois à Moscou depuis 4 ans. Poutine reçoit une bouffée d'oxygène diplomatique de la part de Xi. Mais il n'y aura pas de livraison d'armes importantes à la clé et selon les experts, la Chine ne sacrifiera pas sa relation économique à l'Europe pour la Russie. On verra. Dans la Croix, la sinologue Alice Ekman n'est pas de cet avis. Il ne faut pas surestimer les frictions potentielles entre Chine et Russie. Il parle de renforcer la coopération entre l'Union économique eurasiatique et les nouvelles routes de la soie. Leur vision du monde est assez convergente. Et puis dans Le Monde, qui sortira cet après-midi, il faut encore lire l'enquête sur l'Empire Wagner en Russie.
L'organisation de Prigojine qui fait l'objet d'une attaque de hackers qui mettent son groupe à nu.
L'écosystème bâti par l'homme d'affaires russe et proche de Poutine a été victime d'attaques informatiques. Ses fichiers centraux piratés dévoilent les entrailles d'une société quasi-étatique russe qui est aussi une monstrueuse entreprise criminelle, explique Le Monde. 1 million de documents de toutes origines venus de fichiers informatiques de ce groupe tentaculaire révèlent l'interpénétration des activités militaires et civiles de Prigojine avec l'administration russe. Vous apprendrez que ceux qui veulent rejoindre le groupe Wagner sont passés au détecteur de mensonges pour s'assurer de leurs opinions politiques. Les néo-nazis, qu'ils se rassurent, ne sont pas discriminés pour les leurs. Le groupe emploie également 400 informaticiens qui polluent les réseaux ou diffusent de la propagande sur Internet, mais peuvent être affectés à d'autres tâches. Surprise des révélations du Monde, l'organisation de Prigojine est une passoire informatique. Elle a l'obsession du secret, mais pas de la sécurité informatique de ses réseaux. Rien à voir, mais dans le supplément du Parisien, des Parisiens métiers, des métiers qui recrutent, on vous explique comment les ingénieurs en informatique, notamment, vont jouer un rôle croissant dans le secteur automobile. Dans le Parisien toujours, la dématérialisation fait des merveilles. Dès cet été, disparition des tickets de métro papier vendus par carnet de 10.
Ça va compliquer les sorties scolaires.
Bah oui, personne n'y avait pensé, mais quand les profs organisent des sorties scolaires, ils utilisent souvent des tickets de métro demi-tarif et bah, ils vont continuer d'être vendus à l'unité, mais pas par paquet de 10. Et ça, jusqu'en 2025, on pourra plus acheter des tickets demi-tarif dans les gares et les stations de métro par 10. Et le Parisien explique cette bascule vers le tout numérique a un gros inconvénient. Avec la fin des titres de transport individuels, il n'existe plus de titres de transport à partager en groupe, puisque les passes Navigo ne sont qu'individuels. Si un groupe de 10 ou de 20 veut prendre le métro, eh bien chacun doit avoir un pass. Voilà qui embarrasse les profs de sport, par exemple. On doit aller acheter des tickets toujours plus loin, puisque les points de vente se raréfient. Ça s'appelle un angle mort, dans ce qu'on croit être une solution informatique. Ça rappelle un peu la réforme des retraites. Vous proposez une solution, et puis vous réalisez que votre solution fait plein de mécontents. Terminons avec cette tribune dans Libération qui milite en faveur d'une association des journalistes antiracistes et racisés. Signée d'un collectif de 160 journalistes, syndicats et organisations professionnelles, les signataires dénoncent le racisme et le manque de représentation dans les médias. Et les signataires écrivent, je les cite, Le racisme en rédaction, c'est un chef d'un grand journal qui recommande à l'un de nous de changer de nom pour être plus employable. C'est un collègue dans un média de gauche qui s'oppose à un sujet sur le racisme anti-asiatique. C'est un chef dans la presse professionnelle qui surnomme l'une de nos membres la petite beurette. Bref, à lire cette tribune publiée dans Libération, la presse française est gangrénée par un racisme systémique, par des préjugés. Mais curieusement, qui produit depuis 35 ans des papiers sur le racisme, les féminicides, les discriminations à l'entrée des boîtes de nuit et à l'embauche? Qui publie des reportages écrits ou audiovisuels? Il me semble, mais je peux me tromper, il me semble que c'est la presse et les médias français.
Il est 8h43, Hervé Gattegno, merci David et Rachel Carly.